Argent compté.
Il était une fois, deux fois, trois fois, son investissement initial.
Patrimoine.
Investissement.
Héritage.
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de rendement.
Equity.
Dette.
Bonjour, je suis Caroline Lameau et je vous présente Argent compté, un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne, avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent sans peur et sans tabou. L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant ? Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun ? La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent compté, parce qu'il est temps de changer et de lever tabous et angoisses pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent. Aujourd'hui dans Argent compté, il était une fois l'investissement à impact et plus précisément l'investissement climat. C'est le panorama annuel de l'Institut de l'économie pour le climat qui révèle récemment que les investissements publics et privés français destinés à mettre en œuvre la transition énergétique et climatique avaient atteint pour la première fois en 2022 la barre des 100 milliards d'euros. Ils devraient se maintenir au même niveau en 2023. L'investissement pour la transition énergétique a définitivement le vent en poupe et nombre d'opportunités se sont créées ces 10 dernières années, accessibles aux investisseurs privés. Alors comment choisir quand on veut mettre un peu plus d'impact dans ses placements ? Parce que tous les labels se ressemblent et que peu d'entre eux sont très transparents, le sujet n'a absolument rien d'évident. Chez Anaxago, nous travaillons depuis plus d'un an à la création d'une activité d'investissement dans le climat, ce qui a donné naissance à Axe Climat, tout début 2024. J'ai donc profité d'avoir à disposition notre super gérant, Christophe Piri, spécialiste du sujet, pour explorer avec lui les méandres de l'industrie. Normalement, après ces quelques 30 minutes de conversation, vous devriez être en mesure de choisir avec soin et raison vos prochains investissements verts. Bonne écoute!
Bonjour Caroline. Quelle fierté! C'est vrai.
Qui est fuité dans la presse.
Ouais. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais effectivement. Ouais.
C'est exactement ce qu'il faut dire. Christophe, ce que je te propose, c'est que moi, j'ai regardé un petit peu ton parcours. Je vais revenir dessus en essayant d'appuyer. On développera à certains moments sur les points qui nous intéressent. Et c'est parti pour l'histoire de vie de Christophe Piri.
Très bien.
T'es prêt ?
Allez.
Donc, Christophe, tu es lyonnais. Est-ce qu'on a le droit de dire lyonnais ?
Complètement.
Ok. Lyonnais, fan de foot. Petit garçon à l'époque béni ou l'Olympique lyonnais.
Oui. Exactement. Je souffre un petit peu plus actuellement, voilà. Mais c'était une très bonne période. Tu souffres aussi, du coup.
J'ai toujours souffert.
Oui, c'est vrai.
La période étoilée de Bordeaux était un peu plus pour dire qu'on ne s'est pas fait un titre consécutif.
C'est pas faux.
Tu rêvais d'être footballeur.
Oui, bah forcément. Ou astronaute. Le seul problème, c'est que j'ai dû mettre fin à ma carrière assez tôt, les deux carrières en fait, parce que c'est surtout les ballons que j'envoyais sur la Lune. D'accord. Et du coup, il fallait peut-être me s'arrêter là.
Moi aussi. J'ai passé beaucoup de temps sur le banc de touche. À chaque fois, mon coach me disait la semaine prochaine, t'es en sélection. La semaine prochaine, je vais
l'arrêter. Tu l'attends encore ?
Je l'attends encore. Non, je veux arrêter le foot. J'ai arrêté le foot. Par accepter que c'était plus possible. Non, je trouve que c'est un parcours marrant, parce qu'après, tu pars en école de commerce, une partie de tes études en Suède.
Tout à fait. Un petit peu, et puis j'avais pas mal de cours sur l'état d'esprit qu'il y avait en Scandinavie. Et forcément, bah, tu vois que le pays il est quand même beaucoup plus avancé sur pas mal de sujets qui arrivent petit à petit en France. La consigne sur les bouteilles plastiques, sur les bouteilles de verre, ça existe depuis des dizaines d'années en fait en Suède, je pense. Et,
c'est un comportement
complètement.
Culturel classique.
Complètement.
On se dit comme ça que c'est idiot juste une consigne, mais en fait, ça change tout en termes de
exactement.
Oui,
exactement. Puis c'est des petits gestes qui, au final, représentent mis bout à bout énormément de volume, donc complètement.
Oui, qui sont finalement les petits gestes citoyens qu'on attend beaucoup, beaucoup de nous en ce moment. Alors, on pourra débattre dans un autre épisode de est-ce que le gouvernement a raison de mettre la pression sur les citoyens versus les entreprises.
On est très culpabilisés, mais c'est un autre débat, effectivement.
Comme on se dit qu'on évite d'en parler ici aujourd'hui, parce que c'est tout le sujet. Donc, tu termines par une école de commerce.
Ouais, je commence par une post-bac assez classique. Je n'étais pas du tout formaté pour faire une prépa. Et j'ai complété mes études par un master spécialisé en ingénierie financière à l'EM Lyon. Il s'appelle le MIF, qui est un master assez connu pour rentrer en M&A ou en private equity. Et à la suite de ça, j'ai eu l'occasion de faire un VIE dans une société qui s'appelle Flexstone, qui est basée à Genève. Et qui est spécialisé en fait dans la sélection de fonds et le co-investissement.
Donc, tu as tout de suite été sur les sujets d'investissement dans des fonds,
oui.
Investissement direct.
Exactement.
Un petit peu d'investissement direct après dans
Okay. Oui, j'ai fait les deux. J'ai commencé par du fonds de fonds. Après, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien aller voir le direct. Après avoir appris à sélectionner des fonds, apprendre à sélectionner des entreprises. Donc là, j'ai rejoint une société qui s'appelle Elige Capital, où j'ai passé un peu moins de 2 ans. Et après, je suis allé au Crédit Agricole Brie Picardie, qui est la 3e plus grande caisse régionale du groupe Crédit Agricole, derrière Paris et derrière Lyon, qui est basée sur la Somme, l'Oise et la Seine-et-Marne. Et je suis arrivé là-bas, j'avais 28 ans, et en fait, on m'a confié la responsabilité du développement de l'activité de private equity pour le compte de la caisse régionale. C'est une caisse régionale qui avait investi 70 millions d'euros en 15 ans.
Okay.
Et on a déployé 300 millions d'euros en 5 ans. Mmh. On m'avait dit que j'allais passer 30% de mon temps sur le private equity et le reste un peu sur de la finance de marché.
Okay.
Sauf que j'étais quand même pas très bon en finance de marché et beaucoup plus à l'aise sur le private equity. Et au final, on peut quelque part dire qu'on a décuplé l'équipe d'investissement, parce que de 30% d'une personne, on est passé à 3 personnes à temps complet, avec plus d'une quarantaine, cinquantaine de fonds sélectionnés, pas mal de co-investissements. On a lancé une activité de capital risque aussi, on a fait une dizaine d'investissements dans des startups, principalement sur l'agritech, la food tech, forcément.
Dire, est-ce qu'il y avait une thèse d'investissement très marquée,
bah,
que ce soit en fonds de fonds, que ce soit en PE ou en capital risque?
Alors, sur le fonds de fonds, pas complètement marqué sur une thématique particulière, mais il y avait quand même une tendance à aller sur des fonds qui avaient des bonnes pratiques ESG, on avait des fonds d'impact, on avait un peu de tout, on avait aussi des fonds beaucoup plus classiques. À l'inverse, sur le capital risque, on était très orienté agritech, foodtech. Je pense que l'ADN Crédit Agricole, forcément, tu peux pas t'improviser à faire de l'investissement dans de l'intelligence artificielle. Ça colle pas forcément.
Non, puis je trouve que c'est très sain en fait, de porter tes valeurs
complètement
jusqu'au bout et d'aller chercher des choses qui te ressemblent.
Oui.
Parce que je pense qu'on ne dit pas assez, mais être investisseur en capital risque, c'est parier sur des hommes.
Mm-hmm.
Au-delà de parier sur une idée,
oui.
Tu as une relation qui est, je pense, très importante avec ton investisseur quand tu es dirigeant de boîte.
Oui.
Alors, le Crédit Agricole, je trouve, jouit d'une image relativement positive pour un établissement bancaire.
Énormément.
Moi, j'ai du Limousin, donc autant te dire. Non, mais c'est hyper important.
Ah oui, non, c'est vrai.
Et je trouve ça, je trouve que tu restes un peu true to your values, en fait, en n'essayant pas de transfigurer. Tu vois, c'est comme si nous, à Nexago, on se mettait à faire des produits financiers ultra basiques,
oui.
Pas hyper intéressants, qu'on trouve un peu partout. En fait, non, tu viens chez nous pour chercher des trucs qui sont complètement uniques, que
oui.
Tu ne trouveras pas ailleurs, qui sont à la fois risqués et performants.
Oui. Non, mais tu as complètement raison. Moi, je ne m'en rendais pas compte avant d'arriver au Crédit Agricole. Évidemment, c'est un très beau groupe bancaire, mais je ne me rendais pas compte de l'image dont pouvait jouir les personnes qui pouvaient promouvoir cette marque-là,
ouais,
dans leur activité d'investissement.
Et
ouais, non, mais c'est ça. Et puis, ils sont réputés pour être gentils, pas. ça se termine, voilà. Et effectivement, quand tu arrives devant un entrepreneur, que ce soit une fintech, une agritech, une foodtech, et que tu dis que tu es le Crédit Agricole, bah, tout de suite, ça marche. Et bon, après, il y a évidemment des questions de fit, des questions de valorisation, etc. Mais même sur des tours de table qui étaient déjà ficelés, où on n'était pas forcément attendu, ben, on arrivait à se faire notre place parce que c'était le Crédit Agricole.
D'accord.
Donc effectivement, très belle image de marque. Oui, ouais, tout à fait.
C'est une belle aventure.
Alors, en fait, il se trouve que 3 mois avant que Anaxago me contacte, j'ai été en discussion avec un family office qui voulait structurer un fonds de fonds, et j'avais travaillé cette thèse, en fait, de décarbonation, qui était vraiment un segment sur lequel je voulais me spécialiser.
D'accord.
Okay. Et donc, le jour où on m'a appelé, on m'a dit, bah, tiens, on a un projet, ce serait de monter un fonds de fonds sur une thématique impact décarbonation. Bah, ça tombe bien, j'ai déjà une thèse en fait qui est déjà toute prête, et avec des fonds déjà présélectionnés. Donc aujourd'hui, on a démarré la levée depuis 3 mois, mais ça fait plus d'un an en réalité que le produit existe dans ma tête.
D'accord.
Et qu'il a vu le jour, il a vu le jour que 9 mois plus tard. Mais
parce que ça prend du temps de mettre un produit sur le.
Puis déjà, il fallait que je vous rejoigne. Donc je suis arrivé 5 mois après nos premiers échanges. Donc effectivement, ouais, ça. Ça a mis un peu de temps, et puis après, une fois qu'on est arrivé, ça allait assez vite quand même, parce que sortir un fonds en moins de 3 mois, démarrer la levée, faire un premier closing, faire un premier investissement, le tout en 4 mois.
Tu voilà. Une équipe qui a lancé une société de gestion en
3 mois. Rien n'est
impossible.
C'est vrai.
Je sors d'un rendez-vous où je disais à une nouvelle collaboratrice en top management, qui me disait, attends, mais j'aimerais bien que les choses avancent avant l'été. Et tu vois, c'est dans 3 mois, je dis, non, mais je crois que le temps à Anaxago, c'est pas le même que dans tes précédentes structures. Même pas reconnaître ton service dans 3 mois. Ok, donc c'est une thématique d'investissement qui te tenait à cœur. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est des convictions que tu as, à la fois parce que tu penses que c'est une classe d'actifs qui va être hyper résiliente, ou est-ce que tu penses que c'est le truc dans lequel il faut investir maintenant et tu as senti un peu que le vent tournait? Parce qu'on le voit, il y a des gens qui ont monté des fonds impact il y a une année, c'était très très difficile pour eux de lever les premiers fonds.
Oui.
Ils ont eu moins de mal avec les suivants, parfois parce qu'il y a eu des bonnes pertes, d'autres fois parce que ça y est, le sujet commençait à être un peu entré dans les mœurs.
Oui. Je pense qu'il y a un peu de tout, et effectivement, les premiers qui arrivent sur un marché essuient quand même pas mal de plâtre, et je pense que tu le sais très bien. Mais oui, effectivement, on arrive à un moment où le marché est beaucoup plus prêt pour ce type d'investissement-là, avec une vraie volonté quand même des investisseurs privés d'orienter leur épargne sur des choses qui font du sens. Moi, de mon côté, évidemment que j'ai une sensibilité assez forte à ce sujet, mais je pense que c'est pas que moi, c'est beaucoup de personnes au sein de notre génération se sentent quand même très concernées par toutes ces problématiques. Je dirais que, évidemment, on reste sur un métier financier et on n'est pas sur de la philanthropie. L'objectif, c'est de générer de la performance sur des investissements, sur cette classe d'actifs, parce qu'on pense que ça va être un vecteur de performance à l'avenir. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui fonctionne, on va dire, quand même un petit peu au ralenti, qui est un petit peu plus morose, on essaye de trouver les secteurs d'activité, les entreprises qui sont sur des secteurs qu'on estime plus porteurs que d'autres. Quand tu as l'Union européenne qui décide de mettre en place un plan de développement de l'énergie solaire multiplié par 3, la capacité de production d'énergie solaire entre 2022 et 2030, ça veut dire multiplier en seulement 8 ans par 3, et 4 fois sur l'éolien, même si on respecte pas, on n'arrive pas à faire 100% de cette croissance, mais que tu en as ne serait-ce que 50 ou 60%, tu as déjà un marché qui est très porteur. Et donc ça, c'est notre point, c'est une très grande partie de notre thèse, c'est qu'on pense vraiment que c'est la nouvelle révolution industrielle de l'Europe, que c'est un atout que l'Europe veut mettre en place, c'est son nouvel avantage compétitif, comme elle l'appelle. Et donc nous, on est convaincus qu'il y a de très belles entreprises que ce soit ce qu'on appelle des enablers, donc qui apportent des solutions de décarbonation, ou des entreprises qu'on va plutôt orienter du grey to green, c'est-à-dire des entreprises qui sont actuellement émissives, qui émettent beaucoup et qui ont pour objectif d'émettre moins. On pense que sur les deux sujets, il y a vraiment de quoi s'amuser et faire des investissements qui ont du sens.
Sachant que toi, ce que tu vas chercher à travers Axelma, ce sont des fonds qui investissent dans ces
entreprises. Exactement. Exactement. L'objectif, c'est d'aller investir dans 6 à 8 fonds de private equity, principalement sur du capital développement, du capital transmission, mais aussi de l'infrastructure, pour constituer un portefeuille en fait assez diversifié, parce que ça va permettre d'avoir entre 80 à 100 sociétés sous-jacentes qui sont que des PME et ETI européennes, rentables, en croissance, sans risque techno. On est vraiment que sur des entreprises qui sont déjà dans un certain stade de maturité. Et ça permet d'avoir une volatilité beaucoup moins importante dans la performance. Et c'est ce qu'on recherche avec ce produit, c'est d'avoir un risque-rendement assez équilibré, avec des prévisions de performance qu'on veut assez prudentes. On a des super acteurs, que ce soit en Allemagne, dans le Benelux, en Scandinavie. Ouais. Il y a des fonds qui sont vraiment à la pointe. Même en France, on a quelques acteurs qui sont vraiment très bons. Et on pense qu'on peut vraiment constituer un très beau portefeuille qui sera générateur de performance financière, mais aussi extra-financière, parce qu'on on s'est fixé des objectifs extra-financiers.
Oui, puis le fonds, alors, je fais hyper attention parce que je me suis engueulée plusieurs fois au bureau. Le fonds est à la fois impact et article 9.
Tout à fait.
Et donc, je te propose peut-être, on va dire maintenant okay, ce que ça veut dire pour les investisseurs.
Oui.
Effectivement.
Alors, l'impact, ce n'est pas quelque chose qui est réglementé. Il y a une trame commune qui est utilisée au sein de France Invest par le GIN. C'est pas la boisson, c'est le Global Investor Impact Network. En fait, tu as trois piliers. T'as un premier pilier qui est l'intentionnalité. Ça veut dire que tu es dans une démarche volontaire d'avoir un impact positif, que ce soit socialement ou sur la partie environnementale, en combinaison avec la recherche d'une performance financière. Ce n'est pas du tout un compromis que tu fais entre les deux, c'est vraiment une complémentarité des deux performances. Le deuxième pilier, c'est l'additionnalité. Ça veut dire que les euros que tu injectes permettent d'avoir un impact positif qui n'aurait pas été possible sans cet argent supplémentaire. Ça peut être création d'emplois, réinsertion, nouvelle capacité de production sur une technologie qui permet de décarboner, qui permet de faire de l'évitement de tonnes de CO2. Ça peut aussi être quelque chose d'une additionnalité extra-financière, comme un partage de bonnes pratiques. Mmh. Typiquement, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est mettre en place un groupe de travail avec les responsables ESG de chacun des fonds dans lesquels on aura investi, pour que tout le monde puisse partager ses bonnes pratiques et potentiellement rédiger un livre blanc avec des acteurs de référence du private equity en Europe, et donc que ce papier devienne quelque chose de... Ouais, on aimerait bien. C'est un bel objectif. Et le troisième pilier, c'est la mesurabilité. Et donc là, c'est quantifier l'impact que tu as eu. Alors, on peut le faire sur les objectifs de développement durable de l'ONU. On peut le faire sur des critères extra-financiers comme nous. Typiquement, on s'est fixé 1 million de tonnes de CO2 évitées ou réduites sur la totalité du fonds. On s'est fixé la capacité, enfin d'augmenter de 50 MW la capacité de production d'énergie renouvelable grâce à notre fonds. Et ça aussi, ça vient, on a un fort alignement pour atteindre ces objectifs-là, puisque ça indexe une partie de notre commission de surperformance. Donc, si on ne respecte pas ces objectifs, si on n'atteint pas ces objectifs, on s'assoit sur une partie de notre commission de surperformance.
Ok. Et article 9, là, on est plus sur des standards de reporting.
Tout à fait. En fait, la réglementation SFDR, c'est une réglementation qui a eu le jour en 2021 et qui avait pour objectif d'augmenter la transparence de la durabilité des investissements des produits financiers. Et donc, il y a trois grandes classifications. Tu as les fonds qui sont article 6. Donc, c'est des fonds qui ne prennent en considération aucun critère ESG, d'impact ou quoi que ce soit. Non, tu te déclares.
Écoutez, moi, je suis article 6. Tout ça, ça ne m'intéresse pas.
Ah, mais t'en as, hein. T'en as vraiment. Okay. je ne citerai pas, mais aux États-Unis, tu as des États qui ont même fait de la décollecte chez des très gros asset managers au niveau mondial parce qu'ils estimaient que ces asset managers étaient un peu trop verts. C'est-à-dire que un peu trop contre le pétrole, alors... Voilà, article 6. Article 8, c'est des fonds qui promeuvent... Non, pas d'article 7. Article 8, c'est des fonds qui promeuvent des bonnes pratiques en termes de ESG, mais qui ne se fixent pas d'objectifs d'investissement durable. Et les articles 9, c'est des fonds qui vont à la fois promouvoir des bonnes pratiques ESG, mais qui vont se fixer des objectifs d'investissement durable. Et c'est le cas pour nous, on s'est fixé d'avoir 100% de nos investissements qui sont des investissements durables.
Mmh. Institutionnel, professionnel, peu importe. Je veux consacrer une partie de mes placements à l'investissement durable, le climat, l'investissement à impact. Ce sont ces labels-là, ces labels. Pas des labels. On préfère toujours d'ailleurs les gens qui fonctionnent sans label. C'est ce sujet-là d'être, par exemple, si on parle d'un fonds, d'être un fonds impact ou d'être article 9, est-ce que c'est le genre de critère qui me permet de me dire ces gens-là font un travail sérieux dans l'investissement à impact social, environnemental.
Alors, en partie, mais pas que. Ça demande quand même un approfondissement des méthodes qui sont réellement utilisées par les gens qui se revendiquent article 9 ou à impact. Parce que il y a des acteurs qui sont un petit peu plus opportunistes et qui disent « Ah bah tiens, article 9, ça va intéresser les institutionnels qui ont besoin de mettre de l'argent dans du SFDR 9, ils ont des poches, utilisons-les. » Mais quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que les méthodos, c'est pas complètement carré. Et donc, nous, on a un gros travail dans notre analyse, c'est de s'assurer que les méthodos qui sont utilisés par les gérants sont bien en ligne avec les meilleurs standards sur le marché européen. Et qu'on ne va pas avoir de sujet de greenwashing derrière.
Les méthodos des gérants dans lesquels on souhaite investir.
Exactement. Okay.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de méthodos? Parce qu'il n'y a en fait aujourd'hui pas vraiment de réglementation. Parce que la SFDR, a priori, c'est une réglementation qui est très claire. Tu t'y conformes, tu ne t'y conformes pas. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux encore passer entre les mailles du filet?
En fait, tu vois, même par exemple, si on prend un bilan carbone. Ouais. Selon la méthode que tu utilises dans un bilan carbone, tu peux avoir un écart de x3 à x4 dans le calcul de tes émissions de CO2. Donc si tu prends une méthode qui fait que tu as beaucoup d'émissions de CO2 à la base dans ta situation de départ, derrière tu vas dire en fait on a vachement décarboné parce qu'on partait d'une situation super élevée. Et donc ça on fait vachement attention. T'as des, par exemple le mix énergétique d'un pays, ça compte beaucoup. Tu investis dans une entreprise française qui s'approvisionne en France, qui vend en France, qui émet toutes ses émissions en France, et tu vas comparer la baisse par rapport au mix énergétique européen. Évidemment, ça ne tient pas la route, parce que tu vas surestimer la baisse de tes émissions de carbone, parce qu'en réalité, ça ne correspond pas au mix énergétique auquel toi, tu es confronté, puisque toi, tu es en France, donc tu as une énergie moins carbonée, mais tu viens le comparer à l'Union européenne, qui, elle, est plus carbonée. Donc, tu as des petits trucs comme ça sur lesquels il faut faire attention et pas tomber dans le piège de simplement « Ah oui, on décarbone. »
Moi, j'avais une vision où tu as à la fois des très gros projets, notamment dans les établissements bancaires qui font des projets d'investissement qu'on appelle de type infra, donc c'est un truc énorme qui demande peut-être 300 millions de seed sur les sujets. À l'autre bout du spectre, j'ai les petites plateformes de crowdfunding qui font un super boulot sur des sujets très, très niches dans l'agriculture, dans l'énergie verte, dans la santé moins. D'avoir les reins un peu solides et je crois qu'il y a globalement, il n'y a que nous qui poursuivons des investissements comme ça dans la santé au quotidien. Il y a des fonds de PE qui sont montés, qui investissent en direct dans des boîtes.
Tout à fait.
Des fonds VC spécialisés.
Si. Déjà même que à l'échelle européenne, tu as plus de fonds VC que de fonds buyout, cap dev. Après, tu as l'infra où tu as énormément d'acteurs aussi. Et c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Après, c'est un débat entre à quel moment tu as de l'impact. Si on prend les objectifs, par exemple, européens, à horizon 2030, on doit avoir réduit de 55% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Pour atteindre cette première étape, en fait, les technologies actuelles permettent de faire 80% du chemin. Si tu te projettes à horizon 2050, les technos actuelles, elles permettent de faire que 50% du chemin. Donc on sait qu'on va avoir besoin de l'innovation pour pouvoir atteindre nos objectifs de 2050. Par contre, aujourd'hui, quand tu investis sur des climate tech qui ont des technos émergentes, ton impact, il n'est pas maintenant, tu ne décarbones pas tout de suite. Tu vas contribuer à la décarbonation, mais un peu plus tard. Et les fonds de buyout et capital développement ou d'infrastructures sur des projets solaires, éoliens, etc., permettent d'avoir un impact beaucoup plus direct sur les émissions de gaz à effet de serre.
D'accord. Beaucoup plus clair. Donc, nous, le play qu'on a pris d'aller sur du fond de fond, qui est un truc qu'on n'avait jamais fait chez Hexago, c'est donc, à la fois de réduire le risque, enfin, en tout cas le moyenner.
Oui.
Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi d'être diversifié sur beaucoup plus de. Enfin, de voir beaucoup plus de choses, c'est de donner beaucoup plus de chances à beaucoup plus de boîtes d'atteindre leurs objectifs. Toi, tu considères que c'était vraiment le move à faire parce que ça permet d'avoir un truc qui est à la fois accessible aux investisseurs privés, mais en même temps qui est quand même assez ambitieux parce qu'on n'investit pas que en direct dans des boîtes. En fait, on investit dans des gérants qui ont un track et qui vont eux-mêmes. On ira après sur un exemple concret parce qu'on a fait notre premier investissement. C'est aussi pour ça qu'on a attendu de faire le premier investissement pour notre podcast pour vous faire quelque chose d'un peu clair. Parce que, en fait, nous, on est tous passionnés par le projet. Anaxago est devenue entreprise à mission depuis 2023. Ça fait 12 mois en fait, qu'on dit à toutes les équipes qu'on va lancer notre activité dans le climat. C'est enfin fait. Et ces 12 mois de recherche, de remise en question, nous ont aussi montré qu'en fait, c'était très, très difficile de prendre des décisions d'investissement de manière éclairée dans ces secteurs-là. Parce qu'en fait, il y a plein de labels, il y a plein de règles. Personne ne joue avec les mêmes règles du jeu.
Oui.
Et donc, on a beaucoup de mal à y voir clair. Et donc, je reviens sur la question. L'intérêt du fonds de fonds.
Je pense que le premier intérêt... Pour moi, pour un investisseur privé qui veut s'exposer au private equity aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur produit. Parce que tu as une vraie diversification et il y a tellement de gérants sur le marché qui, en plus, ont très peu d'écart de performance sur les 10 dernières années. Parce que le marché était tellement booming avec beaucoup de cash, des performances qui se faisaient juste par l'arrivée du cash qui venait augmenter les valorisations des boîtes, qu'en fait, tu as très peu d'acteurs, si on prend que ce soit en France ou en Europe, qui ont des mauvaises performances au cours des 10 dernières années. Là, pour s'en rendre plus compte, il faut avoir des cycles beaucoup plus longs. Nous, on prend beaucoup entre 2000 et 2022 pour regarder les performances. Et donc, pour un particulier qui ne connaît pas le marché, n'importe quel gérant peut paraître un pas trop mauvais investissement. Sauf que la réalité, ce n'est pas exactement celle-là. Et quand un marché se retourne, nous, on a l'expertise pour savoir quel type de gérant va être en capacité d'accompagner une boîte dans un retournement de marché. Un particulier qui choisit un fonds via un feeder ou un fonds en direct, il a une chance sur deux que son fonds marche ou pas, quoi. Quand on investit dans un fonds de fonds, on a un panier de fonds qui sont sélectionnés par des gens dont c'est le métier et qui connaissent l'ensemble des acteurs du marché. Donc la probabilité d'avoir des gérants de qualité en dessous, elle est quand même un petit peu plus forte. Un feeder, par exemple... T'as qu'un seul fonds, donc t'as 8 à 12 boîtes. Tu payes des frais supplémentaires pour un travail qui est en réalité plutôt un travail de reporting, puisque tu ne constitues pas un portefeuille, tu ne gères pas un portefeuille. Donc tu viens rajouter une couche de frais principalement pour payer du reporting. Et nous, on va vraiment constituer un portefeuille où on va dire, voilà, on va mettre un peu de temps de buyout, temps de capital développement, temps d'infrastructure, parce que ça permet d'avoir un risque rendement différent sur chaque classe d'actifs. On va mettre un petit peu de co-invest, parce que le co-invest, en plus de ça, il est gratuit, donc ça vient réduire l'enveloppe globale de frais. Donc pour moi, c'est un super produit pour les investisseurs privés qui souhaitent s'exposer au private equity. Après, sur la thématique impact et SFDR9, c'est le même raisonnement. Aujourd'hui, même pour les institutionnels, aujourd'hui on a des discussions avec des institutionnels, des tiers 2, tiers 3, mutuelles, assureurs, qui souhaitent s'exposer à la décarbonation, au SFDR9, mais ils connaissent principalement que le marché français. Il est profond, mais pas tant que ça non plus. Du coup...
Et même l'impact, en fait.
Complètement.
L'impact, c'est-à-dire que pour moi, l'intérêt du produit, au-delà de ce qu'on est en train de dire, qui sont des considérations importantes, je l'admets, mais qui en fait sont plus une histoire de sélection de combien je vais payer mon investissement, il y a ce côté de dire, en fait... Ce sujet, c'est ok, c'est que des petits gestes, mais en fait, ça doit être partout sur le continent.
Complètement.
Et moi, ma vision de l'ex-climat, en fait, celle que j'en ai aujourd'hui, c'est que vas travailler en fait sur un territoire qui est vachement plus vaste.
Complètement.
Que juste la France et ses frontières.
Ah oui, mais la décarbonation, c'est pas local. Ça a jamais été local. Les émissions, quand les émissions de gaz à effet de serre, elles restent pas juste au-dessus de la France. Enfin, elles vont un peu de partout dans le monde. Sauf Tchernobyl. Ça a pas traversé les frontières. Jamais. Jamais. Et donc. Après, c'est vrai qu'il y a des zones géographiques où tu as des mouvements politiques qui sont un peu plus instables ou des politiques publiques qui peuvent changer assez rapidement. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas s'exposer aux États-Unis. Tu as des très beaux fonds de décarbonation, ouais. Mais je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine en termes de nouveau président. Et globalement, ce ne sera peut-être pas sa priorité, la décarbonation. Et je ne sais pas. Peut-être qu'on se trompe sur lui, mais je crois pas.
Je suis tombée récemment sur un portrait fait de lui par Annie Leibovitz et je n'avais pas eu connaissance de ce magnifique portrait où il est dans une Porsche au pied d'un jet et sa femme en bikini enceinte sur les marches du jet. Je ne juge pas.
Sympa.
Mais en fait, il y a tout dans cette image.
Je suis assez d'accord. Et donc, on ne voulait pas prendre le risque géopolitique de un peu trop de retour en arrière, etc. En Europe, on sait qu'on est dans un environnement favorable là-dessus, avec... relativement stable, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'exposer qu'à l'Union européenne.
Qu'à l'Union européenne et pas seulement à la France.
Exactement. Oui.
Qui est notre premier investissement en Allemagne.
Oui.
Et aujourd'hui, tu nous as mis une presse de malade.
Pardon.
On a cherché de l'argent au mois de décembre à Noël. Pourquoi ce fonds, pourquoi eux et comment ils s'inscrivent dans la thèse et ce dans quoi ils investissent.
Mmh. Ils en ont fait plusieurs même. C'est une équipe que je suis depuis un moment. Ça faisait un an et demi que je les suivais. Mmh. Et avant ça, ils étaient dans une autre société de gestion. Donc, exactement. Ils ont fait leur spin-off. Ils étaient en désaccord sur la stratégie à mener parce que justement ils voulaient orienter la thématique climat. Les anciens partenaires de ce fonds-là, eux, n'avaient pas envie de s'embêter à prendre ce virage-là sur le dernier fonds de leur carrière. Okay. Et donc ils sont partis, ils ont créé leur société de gestion, sachant que c'est des gens qui ont un track record juste stratosphérique. Ouais, mais pour le coup, ils ont vraiment un track record de fou.
D'accord. Okay. Tu vois, c'est pas facile. C'est mon collègue, mais rien n'est facile.
C'est vrai. C'est vrai. En fait, ils ont une vraie méthodo dans l'accompagnement des entreprises, dans la création de valeur opérationnelle des boîtes, dans la mise en place des plans de décarbonation des boîtes. Ils sont vraiment excellents. C'est honnêtement une des plus belles équipes que j'ai vues en 10 ans. Et je suis ravi qu'on y soit parce qu'il n'y a que 23 investisseurs au monde qui sont dans ce fonds-là pour un fonds de 415 millions. Ça veut dire que c'est des gens qui ont mis quand même beaucoup d'argent. Il y a des investisseurs qui ont mis 80 millions. Des gens qui ont quand même 20% de ratio d'emprise sur un spin-off, c'est énorme, donc c'est très rare. Et t'as des gens qui voulaient vraiment pas rater cette opportunité-là. Alors je peux pas citer les noms dans le cadre de ce podcast, mais on a vraiment parmi les investisseurs les plus sophistiqués de la planète sur la sélection de fonds en private equity. Et on a la chance d'être parmi ces 23 investisseurs. On s'est très bien entendu parce qu'on partage les mêmes valeurs. Ils sont SFDR9, ils sont à impact. Ils sont sur une thèse de décarbonation. On n'est pas, on n'est pas si éloigné en termes de génération et donc sur les convictions personnelles. Je suis allé les voir à Munich pendant 6 heures. Je suis allé là-bas en train, évidemment. J'ai passé 6 heures avec eux. On a déjeuné ensemble. On a fait pas mal de sessions de travail sur les premiers investissements. Et on a très bien vu qu'on pensait de la même façon, qu'on avait la même vision du marché. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu accéder à ce fonds-là. Alors qu'ils n'avaient absolument pas besoin de nous pour lever, puisqu'ils cherchaient à lever 400 millions. Il y avait de la demande pour 480 millions. D'accord. Et ils ont finalement accepté d'augmenter un tout petit peu à 415 pour laisser rentrer un autre investisseur. Mmh. Mais ils n'avaient clairement pas besoin de nous pour lever. Et ça, c'est ce qu'on souhaite aller chercher. Ce n'est pas les gens qui viennent te racoler pour lever de l'argent. Évidemment qu'il le faut. Ouais. Mais ils n'avaient pas besoin de nous. Donc nous, c'est ce qu'on recherche. Ça veut dire que c'est des gérants qui sont difficiles d'accès. C'est un fonds que tu retrouveras chez aucun institutionnel français, dans aucune banque privée française. Il n'y a personne qui peut avoir accès à ce fonds-là aujourd'hui. On est très contents. Et ils ont fait deux premiers investissements déjà. Boîte familiale, plusieurs générations, qui fait une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, très forte rentabilité, et qui ouvrait son capital pour la première fois à un investisseur financier. C'est un deal qui n'a pas été payé très cher, donc ça on aime bien. C'est un deal primaire, donc on aime bien. En fait, c'est un peu tout ce qu'on aime dans le LBO. C'est des opérations assez peu leveragées, pas trop leveragées en tout cas, payées pas trop cher, et où il y a toute la création de valeur opérationnelle qui peut être mise en place, puisque c'est une entreprise familiale qui ne connaît pas forcément toutes les méthodes qu'on peut mettre en place dans d'autres boîtes. Et donc, Vidya vient apporter son savoir-faire opérationnel là-dedans. Juste à titre d'exemple, la première, l'usine qu'ils ont actuellement, ils estimaient la capacité de production à 20 000 tonnes. Ça fait 20 000 tonnes de plastique recyclé. C'est vrai que je n'ai pas précisé, ils font du plastique recyclé, de déchets post-industriels à destination de l'industrie automobile, de la cosmétique, du jouet pour enfants, de l'ameublement, etc. Et donc, ce plastique recyclé, ils en produisaient 20 000 tonnes par an. Et ils disaient, on est au max de la capacité de production. Vidya, avec son œil d'expert en création de valeur opérationnelle et en procédés industriels, ils ont dit, en fait, vous pouvez faire 30 000 tonnes. Il faut juste changer le mix et la façon dont vous produisez, mais vous pouvez faire 30 000 tonnes. Donc déjà, il y a 50% de croissance organique qui sont possibles. Ils ont acheté le bâtiment d'à côté qui appartenait à la famille, parce qu'en fait, c'est un bâtiment qui est identique et qui permet encore de doubler la capacité de production. Donc ils ont la capacité à aller à 60 000 tonnes, alors qu'en fait, ils ont investi dans une boîte qui fait 20 000 tonnes. Et ils ont réalisé une croissance externe pour avoir un peu de complémentarité dans les activités, donc une boîte qui fait 60% de la taille de cette première société. Donc ouais, en 9 mois, ils ont fait déjà un très très gros boulot, il y a une grosse partie du business plan qui est déjà réalisé, donc on est plutôt content.
Moi je trouve ça passionnant. En fait, c'est pour ce genre d'histoire entrepreneuriale, on imagine trop souvent un mec qui commence dans son garage, en fait il y a toutes ces PME familiales, il y a un savoir-faire, une bonne gestion aussi, parce que
complètement.
Je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qu'il faut faire quand tu veux investir dans le climat.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des trucs à ne pas faire? Vraiment les choses où tu te plantes.
C'est pas facile comme question, il y en a évidemment. En fait, il y a des technos aujourd'hui qui sont pas complètement matures. Et on sait pas où est-ce que ça va aboutir. Et nous, c'est un risque qu'on veut pas prendre parce qu'on n'est pas non plus technicien du savoir-faire en hydrogène, par exemple. On n'est pas, je sais pas si tu as déjà entendu parler des batteries sodium-ion, contrairement au lithium-ion. On a une entreprise française qui s'appelle Tiamat, qui est basée dans les Hauts-de-France, qui fait des batteries sodium-ion. J'ai aucune compétence pour dire si la batterie sodium-ion c'est bien ou pas. Et ça, c'est pas très nouveau comme conseil. Mais il y a quand même un monsieur qui a quand même répété suffisamment de fois qu'il fallait investir dans ce qu'on comprend. Et moi, je ne prendrais pas le risque d'investir dans des choses que je ne comprends pas du tout. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Même si parfois tu te dis c'est vrai que ça a l'air attractif et qu'on peut peut-être faire des perfs de dingue dessus, c'est pas du tout l'appétence au risque qu'on va avoir avec ce type de produit.
Je la fais parce que je la fais quand même dans tous les épisodes. Tu vois, ce serait bizarre de ne pas la faire avec toi.
Ok.
Je pose toujours des questions à mes invités sur leur profil d'investisseur. Généralement, ouais. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. mais je pense qu'on ne peut pas faire pire que mon entrepreneur crypto qui investissait juste dans l'immobilier. Tu vois, avec le mythique. La première question que je pose, c'est si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ans ou à 30 ans. Donc 30 ans, ça ne s'applique pas vraiment parce que c'était il n'y a vraiment pas longtemps pour toi. Et si à 20 ans, tu devais refaire des choix d'investissement, c'est des choses que tu ferais différemment.
Bah, tu sais, même il y a 20 ans. À 20 ans, ouais. J'ai fait mes premiers trades en bourse sur des boîtes comme Alcatel, qui m'avait été conseillé par mon beau-frère. Merci Olivier si tu nous écoutes. Donc, ça, je referai pas. Non, en fait, j'ai souvent investi. Je sais pas, quand j'avais 20 ans, tu vois, j'avais pas, j'en ai d'ailleurs toujours pas beaucoup, mais j'avais pas beaucoup d'argent à investir. Et souvent, je prenais des risques qui étaient bien trop élevés par rapport à ce que je pouvais me permettre de perdre. Et du coup, tu paniques, tu vois les actions dans lesquelles t'as investi s'écrouler. Et puis, bah, tu vends, parce que t'as peur de trop perdre. Et du coup, ça, je l'ai fait quand même pas mal de fois. Et donc, ça, j'ai arrêté.
Il faut jamais regarder, en
Il ne faut pas regarder. Ouais. Ou alors, il faut rentrer progressivement, régulièrement. Et ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais avant, ce n'était pas du tout le cas. Donc ça, clairement, j'essaierai d'éviter. Et ces derniers temps, j'ai fait pas mal d'introductions en bourse de boîtes orientées climate tech. J'ai fait des boîtes comme Afiren, Entech, Waga Energy. J'en ai fait pas mal. Pareil, hein, j'ai pris un peu le bouillon. J'ai pas bougé. Et j'ai pris le bouillon, j'hésite à réinvestir pour moyenner mon prix à la baisse, je sais pas, on va voir. Mais non, c'est, bon, c'est des sujets de valo, c'est des climate tech, t'as pas mal de capex avec des valos qui étaient peut-être un peu surestimés au moment de l'introduction en bourse dans un marché qui était ultra booming. Mais en même temps, j'avais envie de m'exposer à ces boîtes-là parce qu'en fait, ça m'oblige à les suivre et à suivre leurs actualités. J'ai pas mis des sommes pharaoniques dedans, loin de là, mais ça me permet de les suivre et j'aime bien, j'aime beaucoup.
Je trouve que c'est intéressant, bah, c'est ça tes ressources en fait. Quel est le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné, celui que tu t'imposes systématiquement dans tes investissements ?
On ne peut pas maîtriser absolument tous les points. Au bout d'un moment, il faut savoir prendre une décision, même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Mais par contre, il faut quand même faire un maximum d'efforts pour creuser le plus possible jusqu'à avoir le plus possible de réponses, même si tu n'as pas tout. Et du coup, on bosse quand même pas mal les opportunités d'investissement à chaque fois. On creuse beaucoup, on met un peu de temps avant de prendre nos décisions. Mais il faut savoir, il faut avoir en tête qu'on ne peut pas tout maîtriser. Ça, je pense que c'est un des principaux points. Un autre conseil, c'est de ne pas écouter les conseils des autres. Là encore, merci Olivier, mais... Et d'ailleurs, j'ai des amis avec qui je discute et qui me disent « Mais tiens, est-ce que tu investirais là-dedans » etc. Je ne donne plus aucun conseil. Je pense que c'est le meilleur moyen de perdre des amis.
Je suis assez d'accord avec ça.
Et du coup, chacun fait ce qu'il veut. Et on peut entendre les avis des autres, mais c'est pas, ça n'en fait pas une raison d'investir dans quelque chose.
Ouais. Je suis très d'accord avec
cette idée. Ah oui, je pense que c'est plutôt sage. Une personnalité du monde des affaires qui m'inspire.
Ouais.
Je dirais pas que j'ai une personne particulièrement qui m'inspire, mais j'ai beaucoup de respect pour pas mal de personnes que j'ai croisées et que j'ai eu la chance de croiser et qui m'ont soit laissé ma chance, soit apporté pas mal de conseils.
Ouais.
Quand on m'a laissé ma chance la première fois chez Flexstone à Genève alors que j'avais jamais fait de private equity et que j'ai eu un dirigeant qui m'a quand même... beaucoup apporté là-dessus. Ouais, je pense que c'est beaucoup les personnes avec qui j'ai travaillé et les rencontres que j'ai pu faire dans ce cadre-là. Par exemple, le DG de la caisse régionale où je travaillais avant, qui prend sa retraite demain, ça a été un plaisir de l'avoir à mon comité d'investissement pendant 5 ans.
Ouais.
C'est quelqu'un qui m'a énormément apporté, qui avait 40 ans ou 45 ans d'expérience, là où moi j'en avais, quand je suis arrivé, 5. Et toi, t'es là, tout feu, tout flamme. Ouais, effectivement, je pense que c'est la sagesse, quoi, la sagesse de l'expérience. Et être au contact de personnes comme ça, ça fait énormément grandir, beaucoup plus rapidement que parfois par ses propres choix ou ses propres initiatives. Et donc, ouais, je dirais plus pas mal de rencontres dans ma carrière qui m'ont apporté personnellement. Je pense que j'ai un parcours où j'ai eu beaucoup de chance. Vraiment. Tu vois, je le disais, rentrer chez Flexstone alors que j'avais jamais fait de private equity. Rentrer chez Elige Capital qui, pareil, me laisse ma chance alors que j'ai jamais fait de direct, j'ai fait que du fonds de fonds. Arriver au Crédit Agricole à 28 ans, j'ai la responsabilité de déployer au final 300 millions. D'avoir une expo de dingue, j'ai rencontré 95% des gérants en France et en Europe, j'en ai aussi rencontré quand même pas mal. J'ai eu beaucoup de chance.
Ouais.
Et pourtant... avec un parcours scolaire qui n'était pas le plus beau parcours scolaire possible, avec un petit peu de redoublement, avec voilà, un peu de tout. Quoi. Non, je pense que c'est pas...
Tout ça, ça s'oublie tellement vite. Tu vois, je trouve que c'est des trucs qui sont hyper importants pour toi, enfin, qui sont hyper importants juste pour toi. Et je trouve ça toujours bizarre quand le recruteur, en face, c'est très important pour lui.
Ouais.
Ça dit beaucoup de choses sur le
c'est
recruteur.
C'est vrai, je suis d'accord. Oui.
Parce qu'on savait que les gens allaient être bons techniquement et habitués à travailler dur. Et c'était plus ce biais-là qu'on écrivait. Et je trouve que ça fait tellement plus de sens aujourd'hui.
Ah, ça fait. Mais il y a pas longtemps, j'étais à l'événement de lancement du dernier livre d'Alexandre Mars. Et il expliquait sur scène qu'il avait redoublé deux fois et que voilà, qui peut jeter la pierre aujourd'hui à Alexandre Mars d'avoir redoublé deux fois quand on voit le succès du garçon. Et t'avais Michel Simès qui disait exactement la même chose sur l'estrade. Et ben donc voilà, je pense qu'il faut pas en avoir honte. Loin de là, je pense que ça forge aussi beaucoup. Et que derrière, ça contribue quand même beaucoup au succès, enfin à la personnalité et donc potentiellement au succès qu'on peut avoir derrière.
Merci beaucoup, Christophe.
Merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que l'investissement à impact n'a plus aucun secret pour vous. Et je compte sur vous pour mettre une petite note sur Apple Podcast si vous avez un moment, parce que ça nous aide énormément. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Argent Compté.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline@argentcompté.com si vous avez des questions ou des idées, ou bien entendu via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. À très bientôt pour un nouvel épisode.